Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le microéconomique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le format de l'émission, nous allons dans un premier temps poser la même salve de questions que d'habitude à un économiste, avant de l'interroger plus avant sur son domaine de spécialité dans un second temps.
Bonjour Agnès Benassiquéré.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ?
Bien, je suis Agnès Benassiquéré, je suis professeure à l'École d'économie de Paris, Université Paris 1, et présidente déléguée du Conseil d'analyse économique.
Alors, si vous deviez choisir un seul objectif politique à atteindre, lequel serait-il ?
Pour la politique économique en
France ? Pour la politique économique
en France,
en général.
Donc en France, il me semble que le problème principal, c'est le problème de l'emploi. Et le deuxième problème, c'est le problème de la productivité. Donc c'est les objectifs les plus importants. Et au niveau mondial, je pense qu'un objectif très important, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et le développement.
Quelles mesures politiques défendez-vous ? S'il y en a un qui vous tient à cœur ?
Disons que pour l'année 2015, un thème qui pourrait être vraiment porteur et très important pour la politique économique, c'est le chômage des jeunes peu qualifiés. Et là, le Conseil d'analyse économique a préconisé récemment, dans une note, une réforme complète du système d'apprentissage, avec une décentralisation très importante au niveau local, infra-régional, de l'initiative en matière de formation d'apprentissage, et un système de certification décentralisé à partir de cahiers des charges définis au niveau national et d'agences de certification qui pourraient éclore de manière spontanée en fonction du marché, sachant qu'évidemment ce travail de certification serait rémunéré. Donc il nous semble que ça permettrait une beaucoup plus grande flexibilité et agilité de la formation d'apprentissage par rapport aux besoins des entreprises, surtout pour les premiers niveaux de formation, que sont le CAP, le bac pro, le brevet, le BTS.
D'accord. Qu'est-ce que vous pensez d'un revenu de base au revenu de subsistance ?
Alors, c'est une très belle idée qui est très ancienne, hein. Le revenu universel,
oui.
C'est ça ? C'est une très belle idée. Malheureusement, le problème qu'on a avec ça, c'est que pour maintenir le degré de redistribution qu'on a aujourd'hui dans un pays comme la France, ça supposerait un taux marginal d'imposition très important. Et voilà, donc la mise en œuvre, c'est une très belle idée, mais la mise en œuvre est difficile. C'est difficile de reproduire la redistribution qu'on a aujourd'hui avec un revenu universel, parce que le revenu universel, c'est très coûteux. Donc il faut avoir la même redistribution, donc en donnant donc à chacun un revenu universel et puis ensuite un taux d'imposition marginal, mettons constant, à partir du premier euro gagné.
L'un va pas forcément avec l'autre.
Ah ben si, les deux vont ensemble, parce que comment est-ce qu'on finance un revenu universel ?
Ça peut être un impôt progressif.
Donc on pourrait éventuellement avoir un impôt progressif, mais pas sur les premières tranches. Parce que il faut le financer et il faut un taux d'imposition relativement élevé, donc c'est le point où je veux en venir, pour y compris les personnes qui gagnent peu d'un peu, parce que sinon on n'arrive pas à financer ce revenu universel.
Et pourtant on n'est pas très loin en France d'avoir un revenu universel qui dit pas son nom, avec le RSA, les prestations chômage, la retraite. Si on assurait un minimum de 600 euros à chacun, ça ne devrait pas coûter
énormément. C'est extrêmement différent. Le revenu universel, vous le donnez à tout le monde, y compris les personnes qui ont un emploi. Le RSA n'est pas... Le RSA socle n'est pas donné à des personnes qui ont un emploi plein temps.
Et du coup, on leur donnerait, mais on leur reprendra en impôt.
Voilà, et c'est pour ça que je dis que le taux d'imposition doit être très élevé.
Ouais.
Et beaucoup plus élevé qu'il n'est aujourd'hui.
Mmh.
Et c'est ça qui bloque.
D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la création monétaire actuelle, qui est uniquement par la dette ? Est-ce qu'on pourrait imaginer une autre sorte de création monétaire ? Par exemple, on donnerait l'argent à des projets d'investissement, mais sans passer par la dette.
C'est-à-dire qu'en échange de la création monétaire, il n'y aurait pas de dette.
Oui, il n'y aurait pas de contrepartie.
Il n'y aurait pas de contrepartie. Donc là, comptablement, ça ne marche pas.
Oui,
il faut qu'il y ait une contrepartie. Donc on peut imaginer une dette qui ne porte pas d'intérêt et qui n'est jamais remboursée. Une dette perpétuelle sans intérêt. C'est peut-être ça votre idée ?
Non, c'est plutôt un don. Donc, pas
Oui, mais
de, pas
c'est ça,
d'écriture comptable en
comptable.
deux.
Mais il y a forcément une écriture comptable. Donc, ça revient à ça, parce que quand on crée de la monnaie, on augmente le bilan de la Banque centrale, puisque la monnaie, le billet de 20 euros que vous avez dans votre poche, j'espère, est une dette de la Banque centrale. Et donc, cette dette de la Banque centrale, il faut qu'il y ait une contrepartie. Et la contrepartie de la création monétaire, ce sont des avoirs sur l'économie réelle. Donc, ça peut être éventuellement un prêt de la Banque centrale à l'économie, prêt qui ne sera jamais remboursé avec un taux d'intérêt nul. Ça, ce qui revient à un don, d'accord? Le problème que ça pose, c'est que ça augmente la masse monétaire de manière définitive. Et donc, si un jour l'inflation revient, la Banque centrale ne peut pas réduire son bilan pour juguler cette inflation.
Quel livre d'économie est-ce que vous conseillez?
Je recommande, bon, il y a beaucoup de très bons livres. Naturellement, les livres de Daniel Cohen, qui sont très très bien. Je recommande aussi les livres de Pierre Cahuc, André Zilberberg. Je trouve que c'est des bons exemples de livres grand public, extrêmement rigoureux. C'est-à-dire que tout ce qui est raconté dans ces livres, en fait, si vous lisez les notes en bas de page, tout est justifié par des travaux. Par des travaux scientifiques. Et donc, c'est ce que nous, on essaie de porter au Conseil d'analyse économique, c'est-à-dire du Conseil de politique économique qui est compréhensible, mais qui est assis sur une recherche existante. Et donc, il y a un certain nombre de points par exemple, le marché du travail, hein, qui ont été étudiés, y compris avec des expérimentations ou des expériences contrôlées, et qui ont donné des résultats, et ces résultats doivent être connus du grand public.
D'accord. Donc on va passer à la partie sur l'euro. Donc, alors que l'Union européenne peine à sortir de la crise, est-ce qu'elle a su, par ses innovations de politique monétaire et par les mécanismes de soutien aux pays en difficulté créés dans l'urgence, rendre la zone euro stable et à l'abri d'une nouvelle crise?
Alors, depuis le début de la crise, la zone euro a dû évidemment innover, puisque les instruments n'étaient pas là pour répondre à la crise. Par exemple, il n'y avait pas d'institution fédérale pour traiter la crise bancaire. C'était pays par pays, ce qui a beaucoup nui à une réaction rapide, ce qui a augmenté les coûts, notamment les coûts pour le contribuable, et ce qui a maintenu une certaine incapacité des banques à prêter à l'économie réelle. Il y a eu aussi de l'innovation un peu sur le tas pour les pays en crise, où il a fallu, eh bien, pour éviter un défaut de paiement, il a fallu les mettre en quelque sorte hors marché, leur prêter à des taux d'intérêt eh bien, qu'on décidait, et donc qui étaient très en dessous des taux de marché, et contre des programmes d'ajustement. Et tout ça a été fait un peu en dehors des traités existants.
Par des nouveaux traités, en fait.
Alors, oui, il y a eu des nouveaux traités plutôt intergouvernementaux, dans ce qui pose un peu problème aujourd'hui. C'est-à-dire que les innovations qui ont été introduites sont d'ordre intergouvernemental, si on pense au mécanisme européen de stabilité, qui prête aux économies en difficulté contre des programmes d'ajustement, ou si on pense au traité budgétaire, qui lui aussi est intergouvernemental. Donc, ce qui pose un problème de légitimité, en fait, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on a créé quelque chose un peu à côté de l'intégration européenne qui, elle, repose sur la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil. Et un enjeu dans les années à venir, ça va être de recoller ces innovations à la démarche d'intégration qui est une démarche. Enfin, l'intégration, c'est pas l'intergouvernemental. Maintenant, les gouvernements, ils n'avaient pas le choix. On n'allait pas commencer à ouvrir un débat sur un changement de traité quand la crise grecque a éclaté. Malheureusement, c'était pas le moment. Même si il va falloir le faire dans les années à venir. Donc, il y a eu aussi des innovations donc de politique économique, où la Banque centrale européenne est allée le plus loin possible, à repousser le plus possible les murs du traité pour mettre en œuvre une politique destinée avant tout à sauver l'économie européenne. Il y a eu des étapes clés, notamment bon les whatever it takes en juillet 2012, quand Mario Draghi a déclaré qu'il ferait tout son possible pour maintenir l'intégrité de la zone euro. Et donc ça a été précisé ensuite à l'automne que ce serait des interventions sur le marché des obligations souveraines, interventions potentiellement illimitées contre des programmes d'ajustement. C'était très important parce que la Banque centrale européenne est la seule à pouvoir faire des interventions illimitées. Le mécanisme européen de stabilité ne peut pas faire des interventions illimitées. Seule la Banque centrale européenne peut est crédible lorsqu'elle dit qu'elle fera des interventions illimitées, et donc peut faire peur au marché. Elle est crédible parce qu'elle imprime la monnaie pour acheter les obligations. Donc ça a été un tournant, c'était un tournant. Il y a eu un deuxième tournant plus récemment avec l'annonce de l'assouplissement quantitatif. On butait jusqu'à présent sur plusieurs problèmes. Est-ce qu'il le fallait vraiment le faire avec des divergences de vues au sein du Conseil des gouverneurs, savoir s'il y avait vraiment un risque de déflation. Et puis il y avait des discussions sur est-ce que c'est de la monétisation des dettes publiques, est-ce qu'il y a une chose qui est interdite par le traité. Donc, il y a eu des innovations en termes de politique monétaire. Sur la politique budgétaire, les Européens ont été quand même relativement mauvais, il faut le dire, hein. Ce qu'on voit, c'est que en 2009, toutes les économies avancées ont plongé avec la crise. Il y a une donc, perte de PIB en zone euro, mais également au Royaume-Uni, aux États-Unis. De ce point de vue, la zone euro n'est pas différente des autres. En 2010 et 2011, il y a eu une reprise économique. La zone euro, là aussi, n'est pas différente des autres. Et là où ça a vraiment divergé, c'est en 2012, où il y a eu une rechute au niveau de la zone euro, alors que les autres pays ont continué en termes de reprise. Si on voit le Royaume-Uni a mis l'ajustement budgétaire sur pause, alors que les Européens ne l'ont pas fait. Et en fait, si on regarde dans le détail, on voit qu'un certain nombre de pays n'ont pas le choix parce qu'ils sont sur le programme d'ajustement. La Grèce n'avait pas le choix, le Portugal, l'Irlande n'avaient pas le choix. Leur politique budgétaire était dictée par cet accord qui avait été fait donc de l'aide des partenaires européens contre un engagement à l'ajustement budgétaire. D'autres pays comme la France n'ont pas le choix non plus parce qu'ils sont dans le volet correctif du pacte de stabilité. D'autres pays comme l'Italie aujourd'hui sont sortis du volet correctif mais sont dans le volet préventif et donc n'ont pas non plus le choix de la politique budgétaire. Et donc finalement, quand on fait le tour, très peu de pays avaient véritablement un choix d'ajustement budgétaire. L'Allemagne est le grand pays qui avait le choix et il y a eu un accord politique. Avec l'accord de coalition, d'aller à l'équilibre budgétaire beaucoup plus vite que ne l'aurait dit le pacte. Et donc ça, du coup, quand on agrège tout ça, ça a fait une politique budgétaire restrictive à un moment donné où on aurait eu besoin de mettre sur pause l'ajustement budgétaire au niveau agrégé. Ça ne veut pas dire qu'en France, il n'aurait pas fallu continuer, mais c'est au niveau agrégé, peut-être la répartition n'a pas été la bonne. Donc au niveau budgétaire, on n'a pas été très bon, ce qui n'est pas extrêmement étonnant, hein, puisque le pacte de stabilité est axé complètement sur la soutenabilité budgétaire à long terme. Donc ce qui intéresse, c'est revenir à l'équilibre et réduire la dette. Point. C'est que de la discipline. Ce n'est pas de la politique budgétaire agrégée. Il n'y a personne en charge véritablement de mener une politique budgétaire agrégée. Donc il n'y a pas de policy mix, donc de combinaison de politique budgétaire, politique monétaire. Mario Draghi, cet été, a un peu sonné, tiré la sonnette d'alarme en disant, mais oui, mais voilà, j'aimerais bien avoir une contrepartie du côté budgétaire, et ce n'est pas le cas. On se repose sur une coordination qui est un peu molle, et sur la discipline budgétaire qui, elle, est dure. Et donc, du coup, ça mène à un ajustement qui a été probablement trop brutal.
Alors justement, vous et d'autres économistes défendez dans un premier temps une coordination renforcée au niveau de la zone euro et même de l'Union européenne pour harmoniser les politiques économiques, pour ensuite aboutir à une intégration poussée du gouvernement économique de l'UE. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, alors attention, parce que coordination renforcée, c'est un mot clé, hein,
Oui.
dans le vocabulaire européen, qui veut dire, c'est dans le traité, ça a été introduit dans le traité de Nice, et c'est aujourd'hui encore dans le traité, la possibilité pour au minimum 8 États membres d'aller plus loin dans l'intégration, par exemple de faire de l'harmonisation fiscale ou sociale, sans attendre que tout le monde ait dit oui.
Alors, ce que vous proposez dans la dernière note
Voilà.
qui est apparue, c'est plutôt une coordination, mais pas dans le
Plus
vocabulaire
importante.
européen.
Alors, c'est de prendre au sérieux quelque chose qui a été introduit dans le six-pack, donc en 2011, pour renforcer la coordination et qui, de facto, reste assez mou, qui est la procédure pour déséquilibre macroéconomique. Donc, l'idée était très bonne. L'idée était de dire les déséquilibres dans les États membres, ce n'est pas seulement des déséquilibres budgétaires, c'est aussi des déséquilibres qu'on voit dans le secteur privé, avec un secteur privé qui s'endette trop. Et on a vu avec la crise que la dette privée pouvait devenir du jour au lendemain de la dette publique, hein, qu'on fait à l'Irlande ou dans une certaine mesure l'Espagne. En Irlande et en Espagne, la crise n'a pas été budgétaire, c'est une crise d'endettement privé. Donc c'était une très bonne idée, hein, d'élargir la surveillance et de regarder l'endettement, pas seulement public, mais également privé. Le problème, c'est que quand on regarde la politique budgétaire, on sait de quoi on parle. le déficit corrigé ou pas du cycle, et on sait quels sont les instruments, hein, les dépenses publiques, la fiscalité. Quand on parle de déséquilibre privé, ben, le gouvernement n'a pas une action directe. Ce n'est pas des instruments véritablement entre sa main. Il y a des leviers qui existent, qui sont des leviers, par exemple, sur le coût du travail, donc les charges sociales, le salaire minimum, le salaire des fonctionnaires, ou bien des leviers sur ce qu'on appelle le macroprudentiel, donc c'est la régulation de l'ensemble du système financier. Quand on voit que le crédit augmente trop vite, eh bien on peut durcir les conditions d'octroi de crédit, par exemple, au ménage pour l'achat immobilier. Donc il y a des leviers, mais bon, c'est un peu indirect. Et ça part un peu dans tous les sens. Et donc finalement, cette procédure s'est transformée en quelque chose d'extrêmement bureaucratique, et avec des recommandations aux États membres, qui sont des longues listes de choses à faire, qui portent à la fois sur le court moyen terme et sur le long terme. Par exemple, les recommandations à la France en 2014 ont été donc de la Commission européenne à la France dans le cadre de cette procédure de réduction des déséquilibres macroéconomiques. C'était à la fois de réduire les cotisations sociales employeurs, qui est une politique d'ajustement à la marge pour essayer de refaire converger le coût du travail par rapport à l'Allemagne notamment. Et il y avait d'autres recommandations, comme par exemple simplifier et rendre plus efficaces les politiques d'innovation, ou améliorer les interconnexions électriques et gazières entre la France et l'Espagne. Ces deux points sont extrêmement importants, mais c'est plutôt des politiques de croissance de long terme. Innovation, énergie, on voit bien. Ce n'est pas des choses qui sont du même ordre que les ajustements à la marge sur les cotisations sociales ou sur le SMIC. Est-ce qu'on va augmenter le SMIC ou on va pas l'augmenter? Les règles d'indexation, ce n'est pas du même niveau. Et du coup, on a une liste de recommandations qui devient très importante, qui permet à la Commission de graduer la pression qu'elle met sur les États. Vous avez six catégories. La France donc est arrivée au niveau 5 et au niveau 6 déclenche les sanctions. Donc ça permet de graduer, de mettre une pression progressive, mais en même temps on voit bien qu'on rate un peu la cible parce qu'on c'est trop flou, et puis les gouvernements ne peuvent pas véritablement s'en saisir. On manque pour cette procédure de chiffres un peu clés qui ne sont pas forcément très intelligents, mais qui permettent de capter l'attention des politiques. Par exemple, le déséquilibre extérieur courant, puisque il faut savoir quand même que le déséquilibre extérieur courant, c'est la somme du déséquilibre budgétaire et du déséquilibre du secteur privé. Et donc, c'est une mesure synthétique par excellence des déséquilibres macroéconomiques dans une économie. Et donc, on pourrait, par exemple, dire tout pays dont le compte courant en pourcentage du PIB excède plus 4% du PIB ou est inférieur à moins 4% du PIB, ces pays-là rentreraient un peu sous surveillance attentive pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas dans le pays. Hein, parce qu'un déficit très grand, c'est embêtant parce que ça montre qu'il y aura probablement une crise, quelque chose qui ne va pas. Il y a trop d'endettement.
Ça peut être justifié parfois pour, par exemple, dans le cas de l'Allemagne, parce qu'elle a une population vieillissante.
Alors, ça, c'est du côté de l'excédent. Effectivement, un pays qui est vieillissant, qui n'est pas encore tout à fait tous à la retraite, parce que là, mais qui est dans l'âge mûr, qui épargne beaucoup. Donc, ça se justifie qu'il y a un excédent extérieur courant. Mais après, c'est toute une question de degré. 8% du PIB, probablement, c'est plus que ce qu'il faut pour assurer l'équipe des retraites en Allemagne.
D'accord. Et tout ça pour aboutir, j'imagine, à une coordination, à une intégration économique européenne qui permettrait d'effectuer des transferts des zones qui ont un choc positif vers des zones qui ont un choc négatif.
Alors, tout à fait. Donc, d'abord, pour terminer sur l'excédent courant, pourquoi ça pose problème un excédent courant? C'est pas du tout qu'on reproche à l'Allemagne d'être trop compétitive. Au contraire, c'est extrêmement bien que l'Allemagne soit très compétitive sur les marchés hors zone euro. Le problème, que ça fait, l'excédent courant, ça révèle un excès d'offre par rapport à la demande, et donc ça fait une pression déflationniste sur la zone. C'est ça le problème, en fait. Et du coup, si toute la charge d'ajustement porte sur les pays en déficit, c'est un problème qui a été relevé par Keynes. C'est le fameux problème de l'étalon or, où on a un biais déflationniste. Seuls les pays en déficit s'ajustent, et donc ils baissent leurs prix. Et donc ça fait une pression déflationniste. Et Keynes suggérait de taxer les déséquilibres courants positif ou négatif en excès d'un certain niveau jugé raisonnable.
Est-ce que vous pensez qu'il faut faire ça aussi alors, automatiquement
Alors, pas forcément automatiquement, mais on voit bien qu'il était très ambitieux. Il voulait taxer jusqu'à 2% hein, du montant, c'est énorme.
Donc, 2% du PIB ou du dépassement.
Maintenant, on sait que la coordination des politiques économiques, ce n'est pas naturel, c'est extrêmement difficile. C'est difficile au niveau international, on n'y arrive pas du tout. Et même au niveau européen, on a énormément de mal. Pourquoi ce n'est pas naturel? Parce que ça veut dire qu'un gouvernement doit s'écarter un petit peu de ce qu'il ferait naturellement et en réponse à ses électeurs, aux souhaits de ses électeurs, pour tenir compte de l'impact de ses décisions sur les autres pays. C'est ça, en fait, la coordination. Et donc, ce n'est pas naturel pour un gouvernement parce qu'il est élu par des citoyens sur une base nationale et non pas sur une base européenne. Et du coup, la coordination, en fait, ne tient que par rapport à un projet à plus long terme. C'est une sorte de préfiguration d'une intégration. On l'a vu sur le monétaire, de manière éclatante, puisque le serpent monétaire européen, puis le système monétaire européen, donc en vigueur avant 1999, c'était une des tentatives de coordination des politiques monétaires entre les pays européens, qui a marché plus ou moins bien. Il y a eu des périodes fastes dans les années 80, et il y a eu des périodes de crise, le début des années 80, puis le début des années 90. Et ensuite, après la crise de 93, le système monétaire européen n'a survécu que dans la perspective de l'intégration monétaire. Sur l'union bancaire, c'est un peu la même chose. On a tenté la coordination de la surveillance bancaire, ça n'a pas marché, et on a fait l'intégration bancaire avec l'union bancaire. Et donc la question, c'est quelle est la prochaine victime de ce processus d'intégration? Et beaucoup de gens pensent que l'union budgétaire devrait... Aujourd'hui, on a une sorte de système budgétaire européen. Finalement, on demande à chaque pays de rester dans une certaine bande pour son déficit budgétaire. Et ça préfigure peut-être une intégration plus forte au niveau budgétaire, au sens où, par exemple, on pourrait imaginer un système qui est en vigueur dans les États fédéraux, où ça ne marche pas si mal, où on est beaucoup plus dur au niveau des États, on leur demande l'équilibre à tout moment. Et par contre, la politique budgétaire de stabilisation de l'activité est transférée au niveau fédéral. Ça peut se faire, donc on peut penser à stabiliser l'activité agrégée, donc à côté de la Banque Centrale Européenne, en jugeant qu'à certains moments, on a besoin et de la politique monétaire et de la politique budgétaire au niveau agrégé. Ou alors ça peut se concevoir au niveau des États membres, quand un État membre subit un choc négatif, et c'est ça que vous aviez en tête probablement, quand un État subit un choc négatif, transitoirement il reçoit des transferts, et puis quand il subit un choc positif, il peut verser. Donc ça pourrait se faire par exemple à l'aide d'un pilier... européen d'assurance chômage, conditionnellement à une harmonisation du marché du travail. Et je précise que l'harmonisation du marché du travail en Europe, ça n'est pas exporter le modèle français aux autres pays. C'est peu de gens nous envient notre marché du travail. Donc,
de quel modèle on devrait s'inspirer?
Eh bien, le modèle qui est le plus consensuel, c'est une forme de flex sécurité où donc on protège les individus et non pas les emplois. Donc on est beaucoup plus, on accompagne beaucoup mieux que ce qu'on fait en France les individus qui sont sans emploi. Et en revanche, ils ont des devoirs plus importants. Donc on est beaucoup plus sévère en termes d'acceptation d'un emploi. Et on peut imaginer aussi d'harmoniser les droits à la formation professionnelle. La formation professionnelle en France est un désastre. Donc on pourrait s'inspirer d'expériences étrangères, notamment allemandes, où ils ont fait cette réforme, qui est une réforme pas seulement de la demande en termes de droit à la formation, mais aussi de l'offre en termes de qualité et de certification des formations. Donc on peut imaginer toute une... c'est peut-être ça l'avenir d'ailleurs, de mettre les pays européens autour d'une table, et dire voilà, qu'est-ce qui est essentiel pour un marché du travail qui fonctionne bien, et de réfléchir en termes de contrat de travail, de réduire la dualité entre le CDD et le CDI, qui nuit énormément et aux jeunes qui sont enfermés dans la précarité et aux entreprises qui, du coup, n'investissent pas beaucoup si elles ont beaucoup de turnover, n'investissent pas trop dans la formation professionnelle. Donc, réduire cette dualité sans forcément l'annuler totalement. Réfléchir à l'assurance chômage, à l'accompagnement des chômeurs, au droit à la formation. Il y a un certain nombre de piliers, salaire minimum, en pourcentage du salaire médian, on sait qu'on est très haut en France par rapport aux autres pays. Voilà, une certaine harmonisation. Et on pourrait dire aux pays, par exemple, si vous acceptez de rentrer dans cette logique, et de réformer votre marché du travail par rapport à ce minimum d'harmonisation requis, ben vous accédez à un pilier européen de l'assurance chômage qui favorise la mobilité entre États, puisque c'est parfaitement portable entre les États, et ça fait des transferts temporaires, à condition d'être bien calibré, évidemment, ne pas être calibré en fonction du niveau du chômage, mais calibré en fonction, par exemple, de l'écart entre le taux de chômage et un taux de chômage lissé sur 5 ans, par exemple. Et ça permettrait d'avoir des transferts temporaires entre les États. Donc ça, c'est un deuxième objectif possible. Le premier, c'est la politique budgétaire agrégée de la zone euro. Deuxième, c'est les transferts temporaires entre les États. Troisième objectif possible, c'est investir, hein, reconnaître que les États membres de la zone euro ont envie d'aller plus loin en termes d'intégration. Ils ont des biens publics spécifiques, par exemple la stabilité financière, qu'il faut adosser à un budget européen. D'accord? Donc par exemple le fonds de résolution bancaire, hein, pour être adossé à un budget européen. Ils peuvent aussi vouloir investir dans des biens publics à forte externalité entre pays, comme les interconnexions électriques ou le financement de la transition énergétique, et pour élever le niveau de croissance. Bon, ça, c'est un autre objectif possible. C'est d'une certaine manière l'objectif du plan Juncker. Il est clair qu'avec un budget zone euro qui sera jamais, enfin en tout cas pas dans une échéance, disons, visible, du niveau américain, aux États-Unis c'est 20% du PIB. En zone euro, on parle de 2% du PIB. On ne peut pas tout faire avec 2% du PIB, il faut choisir. Probablement la voie la plus raide, c'est celle avec une possibilité d'endettement de la zone euro. Pourquoi? Parce que qui dit endettement dit ressources propres, il faut donc une fiscalité européenne. Pour lever des impôts directement au niveau européen, il faut une représentation. Et donc, il faut que le Parlement européen ou un sous-groupe qui représente la zone euro vote un budget éventuellement en déséquilibre adossé à une ressource fiscale européenne. Et donc, ça suppose un changement de traité. C'est probablement souhaitable, mais c'est lourd. La version où on s'en tient à des transferts temporaires entre États ne nécessite pas forcément à court terme un changement de traité. Peut se faire dans le cadre d'une coordination renforcée.
Wolfgang Schäuble, le ministre de l'économie allemande, a dit souhaiter une meilleure intégration de la zone euro, une supervision européenne des budgets nationaux et voire un parlement de la zone euro. Est-ce que les Allemands sont plus prêts, sont plus enclins au fédéralisme et à l'intégration qu'on le dit?
Alors, il y a deux visions alternatives. Il y a une vision décentralisée et une vision centralisée. Donc la vision que vous mentionnez, c'est une vision centralisée des choses où il y a un pouvoir de veto au niveau européen des budgets nationaux. Vous n'êtes pas en équilibre, vous n'avez pas le droit d'appliquer ce budget. D'accord? Donc c'est une sorte de censeur centralisé. Il y a une autre vision qui est plus décentralisée, c'est de réintroduire la crédibilité de la clause de non-renflouement. En faisant en sorte qu'un défaut d'un État membre de la zone euro ne soit pas une catastrophe, donc il faut améliorer, par exemple, à diversifier les bilans des banques. Hein, on ne peut pas faire ça aujourd'hui, hein, puisqu'aujourd'hui, un défaut, par exemple, en Italie, serait catastrophique pour le système bancaire italien et par ricochet par les autres systèmes bancaires.
Il faudra un système bancaire européen.
Mais surtout, il faut un système bancaire beaucoup plus. Il y a des ordres de grandeur qui sont utiles à avoir en tête. À peu près 10% du bilan des banques italiennes est placé en bons du trésor et obligations italiennes. D'accord? Une réduction de dette de l'ordre de 30% sur la dette italienne entraînerait 3% fois 0,1, 30% fois 0,1 égale 3%, donc une panne de 3% du bilan des banques italiennes. Or, 3%, c'est justement le ratio de capitalisation des banques italiennes. Donc ça veut dire qu'elle serait toute en faillite. Donc ça va très vite. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que ça bloque. On ne peut pas faire ça. Mais on pourrait introduire des incitations. Il y a des réflexions en cours sur ce sujet pour inciter les banques à diversifier leurs avoirs et donc faire en sorte que les bons italiens soit détenu pas seulement par des banques italiennes, mais également par des banques allemandes, françaises, etc. Et vice-versa, que les banques italiennes se diversifient. Donc, on pourrait imaginer ça, que ce serait un préalable indispensable à l'idée de réintroduire la clause de non-renflouement de manière beaucoup plus crédible, Et à ce moment-là, les États prennent leurs responsabilités. Et donc, s'ils s'engagent dans une trajectoire non soutenable, eh bien, on s'attend à ce que les marchés sanctionnent avec un taux d'intérêt plus élevé parce qu'ils craignent qu'en cas de défaut, il n'y ait pas de soutien. Personnellement, je pense qu'aucune des deux versions extrêmes n'est jouable. La version complètement centralisée, elle n'est pas jouable au niveau politique parce que ça met les États sous tutelle. C'est extrêmement difficile. Et la version complètement décentralisée, elle n'est pas jouable, elle n'est pas crédible parce que les marchés, on sait qu'ils se trompent. Et en fait, rien ne garantit qu'ils ne vont pas de nouveau s'enthousiasmer par telle ou telle dette publique sans regarder la trajectoire. Donc, il y a des propositions un peu intermédiaires qui seraient de mettre en place un système de restructuration à plusieurs étages, du type, eh bien, si votre dette publique est inférieure à 60% du PIB et que vous avez un problème d'accès au marché, automatiquement, vous avez droit à des aides du mécanisme européen de stabilité. Si votre dette publique est, mettons, entre 60% du PIB et 100% du PIB, et vous avez un problème d'accès au marché, eh bien, vous avez droit à l'aide du mécanisme européen de stabilité, mais sous la condition d'un plan d'ajustement, et on va regarder un peu dans vos affaires comment ça se passe. Et puis, si vous avez une dette publique supérieure à 100% du PIB et que vous avez un problème d'accès au marché, à ce moment-là, vous avez droit à l'aide du mécanisme européen de stabilité, mais il faut non seulement un plan d'ajustement, mais aussi un plan de restructuration de la dette. Et annoncer ça au marché, comme ça le marché se prépare et sait qu'un pays qui dépasse. Alors je dis 60, 100, mais ça peut être autre chose, hein. Mais on sait que le marché saurait qu'un pays qui dépasse, bah, il y aura une restructuration, mais elle sera encadrée. C'est-à-dire en même temps, il y aura de l'aide, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Voilà. Probablement une solution comme ça, bon, elle ne peut pas être mise en place aujourd'hui, parce que l'annoncer aujourd'hui, ça veut dire que tous les pays au-dessous de 100% vont connaître des difficultés, mais on pourrait essayer de s'acheminer vers un tel système qui est un peu intermédiaire avec de la solidarité. Contre une certaine centralisation, mais seulement pour les pays qui ont dépassé certains seuils d'endettement, et solidarité totale pour les autres. Ça permet aussi de distinguer crise de liquidité et crise de solvabilité. Parce que quand on est dedans, on ne sait jamais si on est dans une crise de liquidité ou de solvabilité. C'est un peu arbitraire, mais en fait, on ne peut pas. Probablement, il n'y a pas de solution sans un peu d'arbitraire avec des seuils parce que sinon c'est trop compliqué et c'est pas lisible et les marchés vont pas comprendre et du coup vont continuer comme avant.
D'accord. Et au niveau des institutions, qu'est-ce que vous imaginez comme changement qui favoriserait cette réforme, ces réformes?
Bah, probablement, de toute façon, il va falloir réfléchir à changer de traité, même si ça nous tétanise, parce que le traité ne permet pas d'aller plus loin dans la solidarité et de manière légitime. C'est le problème de la légitimité. Quelle est la légitimité de la Troïka? Bon, on a bien vu que la Troïka posait problème. La Troïka aurait dû être donc redevable devant le Parlement européen. Bon. Donc l'idée, c'est de s'acheminer vers un système où, par exemple, on a un budget européen qui soit voté par une chambre de la zone euro du Parlement européen. Il faudrait que le Parlement européen accepte de se réunir en chambre zone euro, avec un ministre des Finances qui est chargé de l'exécution du budget. Quelque chose comme ça. On peut imaginer aussi, sur le marché du travail, hein, d'avoir donc des institutions qui permettent de mettre en œuvre une véritable politique du marché du travail au niveau de la zone euro, des choses comme ça.
Alors, au niveau de la Grèce, qu'est-ce que vous pensez de l'ajustement qu'on a imposé à la Grèce? Est-ce que on l'a bien fait? Ou est-ce que c'était...
Donc on voit que l'ajustement budgétaire qui a été imposé à la Grèce a été contre-productif puisqu'il a entraîné une très grande perte d'activité en Grèce et ça fait bon, il y a des bons points. Il y a des bons points. L'ajustement des coûts salariaux unitaires a été fait en Grèce. D'ailleurs, ça veut dire au passage que sortir de la zone euro, c'est pas vraiment ça dont a besoin la Grèce en termes de compétitivité, puisque le coût salarié unitaire, les coûts par unité produite, se sont déjà ajustés en Grèce. Ils sont revenus.
Est-ce qu'ils n'étaient pas déjà bas par rapport à la zone euro et
Ah non, les coûts salariaux unitaires, donc par unité produite, donc corrigés par la productivité. Le problème de la Grèce, c'est pas les salaires sont effectivement très faibles, mais après il faut regarder la productivité. Et donc, ce qui a manqué en
Ah, mais
Grèce,
est-ce que le fait de baisser le salaire minimum n'a pas fait qu'amplifier la crise en Grèce?
bah, la crise, oui, alors, mais pour une raison qui n'est pas forcément très bien comprise, qui est que, en fait, si vous regardez l'évolution des salaires, ils ont effectivement baissé de l'ordre de 17% de manière agrégée, même si c'est très mal réparti, hein. Mais le problème, c'est que les prix ont augmenté. Dans un pays en crise où les salaires baissent, normalement, les prix devraient baisser. Et les prix n'ont pas baissé. Et c'est ça le problème. C'est que la concurrence n'est pas là. Normalement, s'il y avait de la concurrence, les prix auraient dû baisser. Et du coup, les salariés ont énormément souffert, pris en ciseaux entre la baisse de leur salaire et l'augmentation des prix. Mais cet écart entre les salaires et les prix, quelqu'un l'a gagné. Quelqu'un l'a gagné. D'accord? Et donc là, il y a un problème. Et c'est ça qu'aurait dû regarder la Troïka. Beaucoup de lois ont été passées au Parlement pour augmenter la concurrence, mais en fait, dans la pratique, ça, c'est ça la difficulté, c'est que les choses ont été, les cases ont été cochées, mais dans la pratique, les choses n'ont pas changé. Donc ça, pour moi, c'est le problème principal, parce que pourquoi l'économie s'est effondrée, parce que le pouvoir d'achat s'est effondré, et pourquoi le pouvoir d'achat s'est effondré, parce que on a eu ce mouvement de ciseaux entre le salaire et les prix. Donc ça, c'est encore plus important que l'ajustement budgétaire. Parce qu'en fait, il faut quand même voir qu'avant la crise, la Grèce était au plus haut en termes de dépenses publiques. Hein, il y avait quand même un ajustement qui était nécessaire. Alors le deuxième problème, c'était effectivement la difficulté à lever les impôts. Hein, donc l'efficacité, par exemple, sur la TVA, si vous regardez les rapports de la Troïka sur la TVA, donc l'efficacité du système de collecte de TVA était déjà le plus bas d'Europe avant. L'Italie était encore pire, en fait. Donc, en termes de recettes collectées divisées par le taux normal de TVA, donc c'est comme ça qu'on mesure l'efficacité de la collecte, il était déjà le plus bas. Le taux a monté et ce ratio s'est dégradé énormément. Hein, donc là, on voit qu'on a une déperdition énorme. Et il n'y a pas eu suffisamment d'accent. Donc, pour moi, c'est les deux problèmes majeurs qui ont été, c'est ne pas avoir été suffisamment vigilant sur la concurrence, non pas pour la concurrence en soi, hein, mais pour permettre au pouvoir d'achat de pas trop baisser. Et l'autre point, c'est sur la collecte des impôts.
Et que pensez-vous de la négociation actuelle de la dette grecque?
Alors bon, pour l'instant, de toute façon, ce qui est très important, c'est de boucler le deuxième plan d'aide à la Grèce. Et donc il y a encore des ajustements. Alors on voit que le nouveau gouvernement est arrivé avec des priorités, comme la crise humanitaire, qui est réelle. Le problème, c'est que si c'est vraiment ses priorités, alors il doit se tenir à ça et lâcher sur d'autres points. Et c'est là qu'il n'est pas très cohérent, par exemple sur les privatisations. Remettre en cause les privatisations, ça n'a rien à voir avec la crise humanitaire. Et donc, il devrait se concentrer sur vraiment ses priorités. Il serait beaucoup plus crédible au niveau européen s'il se concentrait vraiment sur ses priorités. Donc après, il y aura forcément une restructuration de la dette grecque dans les années à venir, notamment si la croissance ne revient pas. En réalité, si on regarde les projections de la Commission européenne, compte tenu du fait que la croissance, en fait, avant les élections, était en train de rebondir en Grèce. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'elle était revenue, là, ça a replongé. Et c'était pas évident que c'était non soutenable. Ça dépendait complètement de la croissance. Donc là, maintenant, par contre, je pense que c'est inévitable qu'il y ait une restructuration. Malheureusement, la dette, elle est déjà, vis-à-vis des partenaires européens, déjà à très long terme, avec des taux d'intérêt extrêmement bas. Donc on peut gagner un petit peu. Probablement on peut trouver un accord où l'excédent primaire, donc hors intérêt de la dette, ne soit pas de 3,5%, mais plutôt de 4,5% qui était prévu initialement, mais plutôt aux alentours de 2,5%, mais pas non plus 1,5%. Et ce n'est pas vrai de dire que c'est impossible. Il y a des pays comme la Belgique qui ont réussi à faire ça pendant de nombreuses années. Ça dépend en fait de la force de l'État et de la légitimité de l'impôt. Évidemment, si les gens payent en payant les impôts n'ont pas l'impression de payer pour des services publics, parce qu'il y a trop de corruption, et ça peut pas marcher. Donc la réforme de l'État est extrêmement importante. Le problème de la Grèce, c'est qu'on a une administration défaillante, en fait. Et si on n'avait pas une administration défaillante, on n'en serait pas là.
Mais est-ce que l'administration n'a pas besoin de plus de moyens et de solidarité européenne pour corriger ces défaillances?
Ben oui, mais c'est extrêmement difficile parce que ça empiète sur la souveraineté. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez faire? Dire au service des impôts, on va faire venir des experts extérieurs et qui vont vous expliquer comment on collecte les impôts. C'est
Non,
ça?
je pensais plus de solidarité européenne, plus de transferts
Mais il y a énormément de
de
transferts.
menaces vers l'Europe,
Mais il y a énormément
de
de
l'Europe.
transferts. Chaque Français, y compris les bébés, hein, ont déjà prêté 650 euros à la Grèce. Il y a énormément de transferts, déjà. C'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de solidarité. Il y a eu beaucoup de solidarité. Maintenant, il y a eu une déperdition de sa solidarité. Elle n'a pas été efficace. Elle n'a pas été bien ciblée. Mais il y a de la solidarité. Ce qui manque à la Grèce, c'est les investissements. Donc moi, je serais plutôt pour une initiative d'investissement. Normalement, dans un pays en crise, les prix baissent jusqu'à ce que eh bien, ça devienne rentable d'aller investir dans le pays. Le problème, c'est qu'en ce moment, ce mécanisme est bloqué. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas l'avenir de la Grèce. C'est quand même pour un investisseur, ce n'est pas un détail de savoir si la Grèce va rester dans la zone euro ou pas. Et aussi, le flou entretenu, par exemple, sur les privatisations n'est pas rassurant pour les investisseurs étrangers qui envisageraient d'investir en Grèce si on leur dit finalement, non, en fait, on va vous exproprier parce qu'on a décidé que ça deviendrait public. Voilà, donc toutes ces incertitudes, ça nuit énormément à la Grèce. C'est plutôt par là qu'on peut. Parce que la solidarité, elle existe déjà. Elle a été distordue. Il y aura sans doute un troisième plan d'aide. Hein, et sans doute qu'on va abandonner une partie de nos créances sur la Grèce. Ça, c'est la solidarité importante. Le ministre des Finances espagnol a dit devant la presse que ce que l'Espagne, pays en crise, a prêté à la Grèce, c'est une année du budget de la sécurité sociale espagnole. Elle est là, la solidarité. C'est peut-être ce qui a été sous-estimé un peu en Grèce et aussi bizarrement dans le débat français.
Alors, pour revenir à une question plus générale sur l'Europe, est-ce que il faudrait conserver le pacte de stabilité et de croissance, donc avec des objectifs très durs en termes de déficit et de dette, ou quelles nouvelles règles budgétaires il faudrait envisager pour le remplacer?
Moi, je ne suis pas pour remplacer le pacte de stabilité, supprimer ce pacte de stabilité et de croissance. Probablement, on peut éliminer les éléments non crédibles du pacte, comme par exemple la règle de réduction de la dette. Hein, on demande à un État de réduire de 1 vingtième son excès de dette chaque année. Et en fait, ça fait des montants énormes. Et un pays peut avoir, et encore, la maîtrise de son solde budgétaire primaire, hors intérêt de la dette. Mais la dette elle-même, ça dépend de la croissance, ça dépend de l'inflation, ça dépend des taux d'intérêt du marché. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir la maîtrise du taux d'endettement. Donc pour moi, ça, c'est pas crédible, et d'ailleurs, c'est pas vraiment appliqué. Donc moi, je ne pense pas qu'il faille supprimer le pacte de stabilité et de croissance, c'est un point d'ancrage. Il n'y a pas de raison, si la croissance revient, 2015, ça va être une année extrêmement intéressante, à deux points de vue. D'abord, on va savoir si le manque de croissance dans la zone euro, c'est un problème de demande ou d'offre. Il y a des disputes là-dessus. Compte tenu des chocs de demande, on a un choc positif de demande extrêmement important avec la baisse du prix du pétrole qui augmente le pouvoir d'achat en Europe, et d'autre part la baisse de l'euro qui augmente les exportations normalement. Donc on a deux chocs de demande positifs. Si la croissance ne repart pas avec ça, ça veut dire qu'on a un problème d'offre et pas de demande. Donc ça va régler le sujet. Deuxièmement, si la croissance est plus forte que prévu, alors il faut que l'ajustement budgétaire soit plus important que prévu. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Pour moi, c'est un élément très important. Parce que quand la France dit année après année, on ne veut pas ajuster trop vite, c'est parce que la croissance n'est pas assez forte. Maintenant, l'esprit du pacte, c'est de dire, si la croissance revient, alors il faut en profiter pour revenir à l'équilibre. Comme ça, à la prochaine crise, on aura des marges de manœuvre pour, là, ouvrir les vannes et faire une vraie stabilisation, ce qu'on n'a pas pu faire, en fait, ou très peu, juste en 2009. Pendant la crise. Donc ça, c'est extrêmement important et je pense que le pacte permet de nous d'encadrer ce chemin pour revenir à l'équilibre. Maintenant, le pacte tout seul, ça suffit pas. C'est ce qu'on voit avec la crise. Il faut qu'il y ait des flexibilités, mais la Commission, quand même, en a fait plutôt pas mal sur ce thème-là. Il faut avoir des clauses d'exception, mais il y en a en réalité. Il y en a peut-être plus faciliter leur utilisation.
Donc
Notamment,
c'est pas le pacte qui a imposé les politiques d'austérité pendant la crise?
si, mais c'est parce que un pays comme la France, et c'est pour ça que c'est très difficile de défendre son point, parce qu'un pays comme la France, il est rentré en crise et le déficit était pratiquement à 3%, un peu en dessous de 3%. Et donc il y avait très peu de marge de manœuvre. Si vous partez de zéro, vous arrivez à une crise, mais tout va bien. Hein, vous pouvez faire 3% de déficit ou même plus s'il y a une énorme crise puisqu'il y a les clauses d'exception. Donc, y a eu un problème parce qu'on était un peu ric-rac au début de la crise. On n'avait pas les marges de manœuvre. En plus, si on arrive à mettre en place un budget européen, alors raison de plus pour avoir un pacte, mais encore plus dur que ce qu'il est aujourd'hui. Hein, donc, moi, je ne pense pas qu'il faille. En plus, c'est un peu un casus belli, hein, supprimer le pacte de stabilité. À mon avis, c'est mettre son énergie sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Il vaudrait mieux mettre son énergie sur d'autres choses.
D'accord. Et que pensez-vous du pacte de responsabilité du gouvernement français? Est-ce qu'il est adapté pour l'économie?
Alors, le pacte de responsabilité. Bon, l'idée générale de baisser les cotisations sociales employeurs, c'est une bonne idée en bas de l'échelle des salaires, parce qu'il a été montré par plein d'études empiriques que ça a un effet sur l'emploi. C'est plus contestable sur des niveaux plus élevés de salaire, où là, il a été montré qu'il y a un partage qui se fait entre l'entreprise et les salariés, c'est-à-dire que les salariés qui ont un pouvoir de négociation, hein, quand ils sont à 3,5 fois le SMIC, ils ont un pouvoir de négociation, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des compétences relativement rares sur le marché, et donc ils peuvent récupérer en salaire les baisses de charges sociales. Donc c'est très bien pour eux, mais ça n'atteint pas ni le but d'augmenter l'emploi, ni le but d'augmenter la compétitivité. Donc c'est là que ça a été un peu. Les économistes sont plutôt circonspects. Hein, ils sont très enthousiastes sur l'idée de baisser les cotisations en bas de l'échelle des salaires et baisser et donc se rapprocher hein, de niveau européen pour le coût du travail au niveau du travail peu qualifié. Et par contre, plus haut dans l'échelle de salaire, c'est pas complètement convaincant. Voilà. Il y a d'autres éléments du pacte de responsabilité qui sont moins connus, qui sont très importants. La suppression progressive de ce qu'on appelle la C3S, la cotisation. C'est une cotisation sociale des entreprises assise sur le chiffre d'affaires. Et ça, l'analyse économique de la fiscalité va tout de suite dire, attention, le chiffre d'affaires, c'est une notion brute, c'est une base fiscale brute. Et ça veut dire qu'une entreprise qui, par exemple, est très intégrée dans les chaînes de valeur, eh bien, va payer énormément parce que c'est brut, c'est pas net. Et donc, à chaque fois qu'il vend, il achète, etc., ça fait monter les impôts. Donc, c'est vraiment une très mauvaise taxe et assez pénalisante. On ne sait pas trop parce que c'est pas très analysé, parce que ça n'existait qu'en France. Donc, du coup, la littérature est un peu passée à côté, mais c'est très important. Et puis, la baisse amorcée de l'impôt sur les sociétés qui est très importante. Il s'agit pas de se mettre à 12,5% comme l'Irlande, mais quand même se rapprocher des valeurs européennes. Parce que c'est un effet de signal extrêmement négatif sur les investissements. Même s'il y a des moyens de contourner cet impôt, bon, est-ce que, et ça incite d'ailleurs les entreprises multinationales à contourner cet impôt. Et ce qui n'est pas bon, parce qu'in fine, on se retrouve avec des recettes au titre de l'impôt sur les sociétés qui ne sont pas très élevées. Donc, ramener le taux, en plus, ça introduit des distorsions parce que ça veut dire que les entreprises vont avoir intérêt à s'endetter pour ne pas payer l'impôt sur les sociétés, parce que les charges d'intérêt de la dette sont déductibles du bénéfice. Et est-ce qu'on a envie d'avoir des entreprises qui sont très endettées? Non, on a plutôt envie d'avoir des entreprises qui sont bien capitalisées. Donc, à tout point de vue, cette baisse amorcée de l'impôt sur les sociétés est une bonne chose.
Est-ce que ça ne participe pas du dumping fiscal face aux autres pays européens? Et est-ce qu'il faudrait pas mieux remonter les taux d'impôt sur les sociétés dans les autres pays de l'UE?
Alors, dire que la France fait du dumping fiscal, je pense que ça fera rigoler ailleurs en Europe. Donc, la France ne fait pas de dumping fiscal. La France doit commencer par essayer de ne plus être un point aberrant. Hein, bon. Maintenant, moi, je suis pour l'harmonisation fiscale en Europe, notamment parce que ça permettrait de compléter le marché unique. En fait, on voit que dans le marché unique, on a donc liberté de mouvement. Des biens et services, des personnes. On a des régulations qui sont harmonisées, c'est très important. Et par contre, la fiscalité est complètement différente. Alors, sur la fiscalité sociale, ça ne peut pas s'harmoniser comme ça, puisqu'il y a des préférences différentes en matière de redistribution, par exemple, ou des systèmes de retraite différents. Mais pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés, la proposition qu'a faite la Commission européenne de calculer un bénéfice imposable de la même manière dans différents pays et ensuite de le consolider, ça veut dire que si vous êtes chef d'entreprise, vous avez une filiale en Allemagne qui fait un bénéfice de 100 et la maison mère en France qui fait un déficit de 100, bah, le plus 100 et le moins 100 s'annule et vous ne payez pas d'impôt. C'est quand même assez intéressant. C'est aussi, et la Commission européenne a aussi calculé tous les coûts pour tous les coûts liés à la multiplicité des régimes fiscaux. Et c'est en moyenne de 8% de la facture fiscale. Et ça peut monter beaucoup plus pour les entreprises plus petites. Ça finance des avocats fiscalistes. Est-ce qu'on a forcément envie d'avoir une économie européenne qui donne beaucoup d'argent à ces avocats fiscalistes? Finalement, c'est une taxe supplémentaire, hein. Donc, il y a beaucoup d'arguments pour dire qu'il faudrait simplifier. Et si on pense maintenant à un budget zone euro, eh bien, plutôt que de le financer avec une couche de TVA, ce qui est quand même la solution de paresse, il vaut mieux le financer avec un impôt qui donne lieu à beaucoup d'externalités entre les pays. Et donc, il n'y aurait plus d'impôt sur les sociétés, à la limite, au niveau national. Il n'y aurait plus qu'un impôt sur les sociétés européennes. Ça, pour moi, c'est la solution d'avenir. Évidemment, ça entraîne une certaine redistribution entre les pays, puisque les recettes de l'impôt sur les sociétés ne sont pas les mêmes dans les différents pays. Donc, on peut imaginer des étapes intermédiaires, mais ça doit être ça l'objectif.
Est-ce que j'ai le temps de vous poser une dernière question?
Dernière question.
Alors, quel système financier et monétaire international permettrait d'éviter les crises et de réduire les inégalités?
Alors, je pense qu'il y aura toujours des crises. La question, c'est savoir absorber les crises. Donc, avoir moins de ce qu'on appelle le risque systémique, propagation, d'amplification internationale des crises. Ça, c'est important. Bon, il y a tout un mouvement de re-régulation du système financier qui n'est pas terminé encore, mais avec des banques quand même plus solides. Mais des risques qui se déplacent, et c'est ça qui est inquiétant, des risques qui se déplacent sur les non-banques et les marchés financiers, donc plus de prise de risque sur les marchés financiers. Or, ce qu'il faut voir, c'est que des hedge funds ou des asset managers, ils n'ont pas accès à l'assurance de la banque centrale. Seules les banques peuvent enfin, faire appel au prêteur en dernier ressort, qui est la banque centrale. Et donc, on a potentiellement des risques plus difficiles à maîtriser hors des banques que dans les banques. Donc, ce mouvement, à la fois, il est bienvenu parce qu'on diversifie les modes de financement de l'économie, c'est bien. Mais en même temps, il faut vérifier qu'on ne crée pas de nouveaux risques potentiellement plus dangereux hors des banques et notamment dans des secteurs non régulés. Donc ça va être l'enjeu des années à venir. Et maintenant, au niveau du système monétaire international, je pense qu'il y a le mouvement en, il y a un mouvement en cours vers une multipolarisation du système monétaire international qui est bonne, avec l'émergence progressive du yuan qui deviendra un jour une monnaie internationale, qui est encore très loin, mais qui fait des réformes pour aller dans cette direction. L'euro, on ne sait pas encore. Si l'euro surmonte sa crise, il a le potentiel pour devenir monnaie internationale. Il a des avantages par rapport au yuan. Il a des inconvénients aussi. Hein. Ce n'est pas le même taux de croissance, mais il a des avantages, l'état de droit, etc. Et ça serait stabilisant. Parce que on sait qu'avec une économie mondiale multipolaire, où la croissance, grosso modo, ne vient pas essentiellement des États-Unis, mais il y a d'autres sources, d'autres moteurs de la croissance dans le monde, eh bien, on ne peut pas avoir un système monétaire unipolaire. Pourquoi? Parce que y a une demande mondiale énorme pour les actifs liquides. Parce que pour gérer l'incertitude, les acteurs économiques dans tous les pays du monde ont besoin de la liquidité internationale, d'actifs liquides, c'est-à-dire qu'ils peuvent vendre du jour au lendemain. Sur un marché qui sera actif et donc ils ne prennent pas de risques à ce niveau-là. Donc ils ont besoin de ces actifs liquides internationaux. Aujourd'hui, l'actif liquide international par excellence, c'est le bon du Trésor américain. Mais s'il y a une énorme demande mondiale structurelle pour ces bons du Trésor américains, ça maintient les taux d'intérêt américains bas, ça maintient le dollar à niveau surévalué et du coup ça encourage les États-Unis à continuer à s'endetter de manière excessive. Et ceci va mal se terminer. Donc l'idée, c'est d'avoir des sources alternatives de liquidité internationale. Bon, il y a eu le projet du DTS, mais probablement qu'on va avoir du mal à. Le DTS, hein, c'est.
Pourquoi on aura du mal à.
Parce que c'est une solution coordonnée et il n'y a pas d'appétit pour cette coordination au niveau international. Et donc l'autre solution, c'est une solution plus décentralisée, où quelqu'un qui a besoin d'actifs liquides et sans risque pour mettre son bilan bancaire ou pour utiliser. Pour des interventions de change ou n'importe quoi, eh bien, il a le choix entre le dollar, l'euro et le yuan, par exemple. Et donc, s'il voit qu'aux États-Unis, eh bien, il y a une bulle d'endettement qui paraît pas maîtrisée, eh bien, il va se tourner sur l'euro, le yuan. Et du coup, ça va faire pression aux États-Unis pour revenir à l'équilibre. Voilà. et avant que on soit vraiment au bord de la falaise. C'est ce qu'on appelle le dilemme de Triffin. Hein, ça avait été mis en évidence par Robert Triffin, l'économiste belge, dans les années 60, où il prédisait la fin du système de Bretton Woods, et c'est effectivement ce qui s'est passé.
Non, dans ce que vous avez dit, il n'y a pas de mention des inégalités. Est-ce que ça veut dire que le système monétaire et financier n'a pas de rôle à jouer là-dedans?
Sur les inégalités?
Oui, les inégalités mondiales.
Bah, les inégalités mondiales, elles sont dues à... si vous avez une mondialisation, vous avez plus besoin de redistribution, et donc plus besoin d'État. Et donc on est dans cette contradiction, c'est-à-dire que la mondialisation fait pression sur les gouvernements pour réduire l'État-providence, alors qu'il devrait au contraire l'augmenter. Plus il y a de mondialisation, plus on a besoin de l'État-providence. Et c'est là qu'on a besoin, donc, par exemple en Europe, d'une harmonisation fiscale. C'est aussi pour ça qu'on a besoin que les travaux de l'OCDE, par exemple, pour empêcher l'évasion fiscale, sont très importants aussi pour ça, pour rendre aux États la capacité de faire de la redistribution. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, le système monétaire international et les inégalités, c'est quand même assez loin.
D'accord.
Voilà, c'est des sujets quand même. Voilà.
D'accord, ben merci beaucoup. Comme toi.
Je termine comme d'habitude cette émission par un triptyque. Le fait économique inquiétant dont on n'entend jamais parler est l'épuisement des réserves de métaux. Les réserves de beaucoup de métaux indispensables dans de nombreux secteurs, et en particulier celui des énergies vertes, seront épuisées d'ici quelques dizaines d'années au rythme de consommation actuel. Ainsi, les réserves exploitables ne dépassent guère 100 ans pour beaucoup d'éléments, dont le lithium, le cobalt, le platine ou le palladium. Elles seraient même d'une trentaine d'années pour d'autres, comme le cuivre, le plomb ou encore l'or. La référence du jour est l'excellent précis d'Agnès Benassi-Quéré sur le fonctionnement de la zone euro, économie de l'euro. Enfin, notre citation est due à Rudolf Barrow, tandis que l'accent français me revient. The working class here is the richest lower class in the world. And if I look at the problem from the point of view of the whole humanity, not just from that of Europe, then I must say that the metropolitan working class is the worst exploiting class in history. What made poverty bearable in 18th or 19th century in Europe was the prospect of escaping it through exploitation of the periphery. But this is no longer a possibility, and continued industrialism in the Third World will mean poverty for the whole generations and hunger for millions.